Radio
Okapi. Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Bienvenue dans cette deuxième tranche de l'émission Okapi Service. Merci de votre fidélité à ce magazine de la vie au quotidien. Merci à vous tous qui venez de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Quelle que doit être la vision des candidats à la présidence, à la présidentielle sur la gestion des forêts tropicales de la RDC, on en parle aujourd'hui dans cette émission. Vous savez que la COP 28 a déjà commencé depuis le 30 novembre dernier à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Alors, quelle doit être la vision de la RDC à l'occasion de ces assises? Eh bien, nous allons en parler tout à l'heure avec le professeur Eustache Kidi-Kwadi Tango, docteur en sciences de l'environnement. Et nous avons en ligne Martin Milolo, coordonnateur de la plateforme des jeunes pour le climat. Martin Milolo, bonjour. Bonjour Martin. On les retrouve dans quelques instants. Fidèles auditeurs, pour participer à cette émission, composez le 099-706-9941. Pierre Diassino à la mise en onde. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation au micro. Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Radio Okapi à la Maison de l'Entrepreneuriat de Kinshasa avec Okapi Service. Rendez-vous ce mercredi 6 décembre des 11h à 13h pour une émission spéciale avec 1000 entrepreneurs, parmi lesquels les jeunes, les femmes, les responsables d'incubateurs des start-up, les PME ainsi que les porteurs des projets innovants. Au menu, quelles sont les stratégies des créations des millionnaires et milliardaires congolais? Radio Okapi avec les entrepreneurs. C'est pour ce mercredi 6 décembre à la Maison de l'Entrepreneuriat, première rue Limetefuna. Retrouvez Jody Daniel Kachama et toute l'équipe d'Okapi Service pour des moments d'échange inoubliables. L'entrée est gratuite. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission qui doit être la vision des candidats à la présidentielle sur la gestion des forêts tropicales de la République démocratique du Congo. Lors de cette édition, vous savez, la COP 28 a démarré depuis le 30 novembre à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, et la RDC compte signer un contrat sur l'enveloppe pays au sein du Forum des leaders sur les forêts et climat. Selon le ministère de l'Environnement et Développement Durable, le gouvernement entend miser sur cette enveloppe pour valoriser les communautés vivantes à proximité des tourbières des forêts du bassin du Congo. Et ça a été annoncé que le président de la République pouvait même suspendre sa campagne pour aller prendre part à ces assises. Alors, que doit être la vision des candidats à la présidentielle sur la gestion des forêts tropicales de la République démocratique du Congo? Martin Milolo, bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Vous êtes le coordonnateur de la plateforme des jeunes pour la justice climatique. Alors, selon vous, les candidats, les différents candidats aux élections présidentielles, devraient avoir quel type de vision en ce qui concerne, quelle devait être leur vision en ce qui concerne la gestion des forêts tropicales de la RDC?
C'est une vision écologique axée sur la capitalisation de notre potentiel forestier et de la biodiversité. Et vous allez comprendre que depuis le début de la campagne électorale, presque tous les candidats n'ont pas évoqué de manière substantielle la question environnementale en général, mais aussi la question des forêts en particulier. Il faut noter que, à ce jour, le bassin du Congo reste le premier poumon du monde après la perte en capacité du bassin de l'Amazonie avec le feu l'année dernière et la perte en capacité aussi du bassin de Bornéo, Mekong, Asie du Sud-Est avec notamment le feu mais aussi l'agriculture itinérante. Et donc aujourd'hui, et c'est prouvé scientifiquement parce que lors du sommet des trois bassins à Brazzaville, nous l'avons démontré scientifiquement que la forêt du bassin du Congo reste la seule forêt à l'état naturel et qui a une grande capacité de séquestration du CO2. Et à ce jour, c'est la République démocratique du Congo à lui seul regorge plus de 62% de ces bassins, sans oublier la biodiversité, les tourbières et les mangroves. Alors, éluder la question de la protection du forêt du bassin du Congo, mais aussi sa rentabilité parce que la séquestration de carbone aujourd'hui équivaut aussi à une contrepartie en argent par rapport aux pays qui ont la dette historique, c'est-à-dire les pays pollueurs. Ça veut dire que lorsque notre forêt séquestre autant de tonnes de carbone, les pays pollueurs versent autant d'argent par rapport à ce que notre forêt séquestre. Voilà pourquoi on est en train de parler même du prix de la tonne de carbone. Et donc c'est un moyen un moyen de captage des ressources. C'est un minerai. C'est au même titre que le cobalt, le diamant, ainsi de suite. La forêt du bassin du Congo aujourd'hui, c'est un moyen qui peut mobiliser les ressources. Et donc, je note tout simplement que soit la majorité ou presque tous ne connaissent pas l'importance de cette forêt, ou soit c'est fait de manière expresse pour éluder cette question. Je ne sais pas pour quelle raison, mais
Martin, vous voulez dire que jusque-là, aucun candidat n'a parlé des questions environnementales.
Aucun candidat, je note bien, et y compris même le président candidat qui, au courant de son mandat, a vanté cette capacité, notamment la RDC Pays Solution, mais curieusement, en entrant dans la campagne, ce discours est vraiment éludé et on ne comprend pas, alors que il fallait miser sur ça et au fait, les enjeux géopolitiques, les enjeux diplomatiques, c'est aussi sur le plan environnemental que ça se joue. Et donc, c'est vraiment une question importante. Je conseille à ceux que les uns et les autres puissent revoir leur copie parce que ça fait partie de la politique. Voilà pourquoi je note aussi qu'il y a un problème de politique ou de vision en termes dans les chefs des candidats. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir une politique publique, vous ne pouvez pas avoir un programme gouvernemental et éluder la question environnementale. Et donc ça, c'est vraiment dommage et je les encourage parce qu'il n'est jamais trop tard. Nous sommes à la deuxième semaine de la campagne. Ils peuvent se ressaisir, mais est-ce qu'ils vont se ressaisir avec une vision cohérente ou en bricolant les choses? Moi, je crois qu'il y a moyen de pouvoir s'entourer des experts pour essayer de pouvoir revaloriser notre forêt. Parce que si on ne le fait pas, les autres vont le faire à notre place. Et ça a déjà commencé parce que à Dubaï, le président français a annoncé 60 millions d'euros en appui en aide à la RDC. Et on ne sait pas sur quelle base ces 60 millions d'euros ont été décidés ou soit ce sont des choses qu'on décide à notre place comme ça. Et les candidats présidents de la République devraient prendre conscience de cette question.
Bien. Alors, la COP a déjà démarré. Alors, qu'est-ce que D'après vous, qu'est-ce que la RDC pourra... Quel serait le cahier des charges de la RDC lorsqu'on va dans de telles manifestations, organisations au niveau international? Qu'est-ce que la RDC devrait, par exemple, exiger du fait qu'il détient le bassin du Congo, il détient une bonne partie du bassin du Congo qui sert de poumon au monde aujourd'hui?
Un seul mot, c'est que... en tout cas, la République démocratique du Congo doit exiger la justice climatique. Et c'est ça notre combat au niveau de la plateforme des jeunes pour la justice climatique. Pourquoi la justice climatique? Parce que jusque-là, nous sommes en train de vivre l'injustice climatique. Vous savez que, par exemple, sur cette question des forêts du bassin du Congo, il y a le fonds bleu pour le bassin du Congo que la RDC ne bénéficie pas. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est presque un certain nombre de pays qui n'ont pas une grande capacité ou une grande partie de cette forêt qui bénéficient de cet argent. La commission climat du bassin du Congo devrait se retrouver en République démocratique du Congo, mais aujourd'hui, c'est en face de nous au Congo Brazza. Et donc, ce n'est pas qu'on est contre les autres, mais la justice doit être rétablie parce que aujourd'hui. La République démocratique du Congo, le bassin de la République démocratique du Congo regorge, séquestre plus de carbone, plus même au niveau de méthane, ça séquestre plus de carbone. Je ne vais pas ici parler de la question de la transition énergétique avec le minerai stratégique, le minerai de transition, mais par rapport à la question des forêts spécifiquement, il faut exiger, et c'est un droit. Nous l'avons dit lorsque nous avons lancer la campagne « Respectez vos promesses » la semaine dernière avant la COP ici à Kinshasa au CEPAS, nous l'avons dit qu'il faudrait que les pays du Nord, notamment les pays du G7 et les pays du G20, doivent assumer leurs responsabilités et débloquer les fonds nécessaires pour soutenir le développement dans le pays, dans les pays qui contribuent à la oui. solution pour la stabilisation climatique.
Mais Monsieur Martin, et pourquoi tous ces bailleurs ne donnent pas des fonds à la RDC? Est-ce qu'il y a un problème de confiance par rapport à la gestion ou c'est quoi en réalité la vraie raison?
Oui, la raison est double. Elle est d'abord sur le plan externe, c'est d'abord la question de manque de volonté politique. Ces amis-là, d'abord, ils ne nous prennent pas au sérieux. Ils ne prennent pas les Africains en général et les Congolais en particulier au sérieux. Pourquoi? Parce que les Congolais ou les Africains eux-mêmes ne se prennent pas au sérieux. Depuis qu'on a décidé à travers les différents accords, mais notamment l'accord de Paris sur les 100 milliards de dollars par an pour soutenir l'adaptation dans les pays en développement. Jusqu'à aujourd'hui, aucun dollar n'a été déboursé. Et lorsque vous allez dans ces forums, dans ces sommets, dans les COP, on vous dit, bon, voilà, il faut chercher l'argent. Mais on a vu à travers la crise que nous avons connue 2020-2021, la crise de Covid, vous avez vu combien d'argent a été mobilisé dans l'espace, dans un espace de temps relativement court. On a eu à trouver l'argent pour fabriquer même les vaccins et le distribuer. Mmh. Et les pays comme les États-Unis, par exemple, ont mobilisé en une année plus de 1 000 milliards pour soutenir les efforts par rapport au Covid, ainsi de suite. Oui. Et donc, vous voyez que ce n'est pas la question d'argent, c'est la question de volonté, parce que l'argent, il y en a, mais c'est tout simplement que les gens ne veulent pas...
ils ne nous prennent pas au sérieux.
Donc, ils ne veulent pas donc les débourser. Et ils ne veulent pas les débourser parce que les Africains, notamment comme les Congo, n'arrivent pas à être exigeants. Par exemple, les engagements en matière environnementale doivent quitter la dimension volontariste. Ça doit être des engagements contraignants et avec des lignes rouges. Et nous l'avons dit au sommet africain sur le climat à Nairobi qu'il faudrait
donner l'ultimatum pour que si ces engagements ne sont pas respectés, si cet argent n'arrive pas parce que ce n'est pas de l'aumône, ce ne sont pas les cadeaux, c'est pour soutenir ceux qui gardent les forêts, ceux qui protègent les forêts ont aussi droit au développement. Ce sont aussi des humains comme les autres. Parce que ceux qui ont pollué, ils ont pollué pour se développer aujourd'hui. Ils sont devenus des paradis et les autres sont venus en enfer.
Martin, comment expliquer le fait que certains pays du bassin du Congo arrivent à avoir ces financements? Congo-Brazzaville, vous avez parlé tout à l'heure du fonds bleu. Comment les autres y arrivent, mais nous, on éprouve toujours des difficultés?
Oui, cela m'indique à revenir sur le deuxième volet de votre précédente question par rapport au défi interne. Le défi interne, c'est que c'est d'abord notre propre gouvernance. Notre propre gouvernance, lorsque vous avez une gouvernance axée sur la corruption, le détournement des fonds qui deviennent endémiques, où vous avez les gens qui volent l'argent de l'État, qui détournent l'argent public, ils sont gratifiés. Et à ce moment-là, ces gens-là, ces bailleurs-là vous disent, bon voilà, en tout cas, vous n'êtes pas digne de confiance, on ne les fait pas, même si on les critique. Alors, nous-mêmes, nous devrions nous remettre en cause. Nous devrions assainir notre gouvernance. Nous devrions avoir une gouvernance saine et une gouvernance responsable pour et arriver à capter ces fonds-là. Mais cela seul ne justifie pas l'inaction de pays qui ont la responsabilité de pouvoir appuyer la République démocratique du Congo. Par rapport aux autres pays comme le Kenya, comme le Gabon, comme pour ce qui est du bassin du Congo, je parlerai du Gabon, du Cameroun, du Congo-Brazza notamment, qui bénéficient de cet argent dans le cadre du Fonds bleu, mais parce que ils font bloc, mais aussi ils ont une certaine politique qui vise à maintenir la République démocratique du Congo dans une certaine incapacité, parce que lorsque la République démocratique du Congo a accès à tout ça, et avec ses potentiels, il s'impose comme étant l'élément incontournable. Et pour ça, en tout cas, certains de nos voisins ne le voient pas d'une bonne façon. Voilà pourquoi ils se liguent parfois. Et dans ces cas-là, il y a même des projets communs. Vous savez qu'il y a parfois des projets communs entre le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, dans le cadre des initiatives sur le bassin du Congo, alors que la
RDC est mise de côté.
Et la République démocratique du Congo est mise de côté. Donc, tout ça, ce sont des choses qui demandent à ce que les Congolais, eux-mêmes au niveau interne, puissent repenser leur diplomatie, puissent se réorganiser afin de pouvoir peser sur ces questions-là, parce qu'effectivement, ils ont tous les moyens nécessaires. Les autres pays là, du bassin du Congo, c'est près de 38% ou 37%, l'ensemble des autres là. Les Congo-Brazza, par exemple, c'est aux alentours de 10% des forêts du bassin du Congo. Mais vous avez vu, par exemple, même pour les sommets des trois bassins qui devraient se tenir à Kinshasa, a été délocalisé à Brazzaville. Tout ça, vous comprenez il y a un problème que nous devons résoudre d'abord au niveau interne, nous organiser, avant de pouvoir aller dans ces batailles externes où tout le monde veut maintenir la République démocratique du Congo dans l'incapacité, parce que si la RDC est debout, les autres pays n'auront pas l'occasion ou la large des manœuvres de pouvoir obtenir ce qu'ils veulent.
Bien, nous parlons aujourd'hui dans Capi Service de l'environnement, de questions environnementales, comment que doit être la vision des candidats à la présidentielle sur la gestion des forêts tropicales de la RDC, des forêts du bassin du Congo. Nous avons en ligne Maître Omar Kigalo. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour à l'invité.
Vous êtes à Kinshasa, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce thème?
Avant de poser mes questions, je voudrais quand même préciser une chose. L'invité n'a pas raison. Il y a des candidats qui ont parlé de l'environnement, notamment de Lise Sanga. J'ai été à la présentation de son projet à Chaubeuse. Il a proposé la lutte contre la criminalité faunique et florique, la faune et la flore. Il a même dit que s'il est élu, il mettra en place un cadre de suivi des accords signés. Parce qu'en matière internationale, ce sont les rapports de force qui priment. Il y a aussi une dame, là, une jeune dame intelligente, Joëlle Billet, elle parle de la réhabilitation de la police environnementale. Parce que pendant la Deuxième République sous Mobutu, il y avait une police spéciale chargée de l'environnement. On passait dans les différentes parcelles. S'il y a des gens qui négligent les déchets, s'il y a des gens qui ne respectent pas les normes de l'environnement, on les sanctionnait. Donc il y a deux candidats qui en ont parlé, ils peuvent vérifier.
Par rapport à cette mais est-ce qu'ils ont parlé particulièrement de ce que la RDC peut faire pour arracher des gros financements? Nous gérons le bassin du Congo, une bonne partie du bassin, des forêts du bassin du Congo, mais on ne reçoit pas toujours des financements de niveau qui provient du niveau international.
C'est sans quand même parler de la culture de la gratuité. Il a dit un pays sérieux n'est pas un pays qui vit de la gratuité. Il faut un rapport de force. Il faut parler avec les autres pays voisins qui partagent avec nous les bassins du Congo, discuter avec eux. Et au niveau international, très cher, je dis, c'est pas un cadeau qu'on donne quand on dit qu'il faut financer. Il y a trois critères. Le premier, c'est la bonne gouvernance. Comment vous gérez les fonds qui vous ont été alloués précédemment? De deux, comment vous gérez vos déchets, votre environnement? Comment vous gérez vos forêts? Aujourd'hui, on parle de la déforestation, on parle de déboisement abusif. On a même donné des recommandations à l'État congolais. Quand on enlève un arbre, il faut le remplacer. On a même recommandé qu'on ne fasse plus de braise. On continue à le faire. Comment voulez-vous qu'on vous finance? Vous ne respectez pas au niveau interne des règles environnementales. Il y a des candidats qui en ont parlé, qui ont même proposé. Mais moi, je pense très cher, je dis, il y a un problème.
Maître, vous parlez de Sesanga qui a désisté au profit d'un autre.
Est-ce malheureusement, que... oui.
Alors
malheureusement,
maintenant, tout ce projet sur l'environnement, la criminalité, ça tombe dans l'eau.
Ça tombe dans l'eau. Voilà pourquoi, là, je soutiens l'invité. J'ai dit, avec deux mains, je soutiens. Parce qu'au Congo, on a un problème d'éducation environnementale. Très cher, je dis, la loi dit fondamentale, tout Congolais a droit à un environnement sain. Et les scientifiques disent l'environnement est à la fois un cadre de vie et une source de revenus. Est-ce que les Congolais savent, même ceux qui postulent, que quand on fume la cigarette, ça pollue l'air? Est-ce qu'ils savent que les sachets qu'on jette par terre, s'il peut faire 50 ans, et pollue le sol? Est-ce qu'on sait que les brassicoles, Bralima, Bracongo, déversent tous les jours des déchets qui polluent nos eaux? Est-ce qu'ils savent que ceux qui ont implanté des antennes paraboliques des cellulaires dans les maisons peuvent affecter les gens par rapport à leur fécondité? Ce sont des problèmes sérieux, il faut que les députés en parlent. Voilà pourquoi moi je propose, et c'est aussi une question, est-ce qu'on ne peut pas, au lieu de demander aux candidats de parler-en, leur demander plutôt d'appliquer les codes forestiers qui a tout prévu par rapport à la gestion des forêts, d'appliquer également les accords que nous avons signés par rapport au bassin du Congo. Demander aux candidats qui sont là une fois élus, parce que les lois existent. Voilà pourquoi ils n'ont pas seulement fait allusion. Il faut seulement une bonne gouvernance au niveau interne. Il faut réhabiliter la police environnementale. Il faut combattre la déforestation. Parce que l'arbre est à la fois la vie, c'est aussi un cadre de revenus. C'est donc, il y a des députés qui n'en ont pas parlé, des candidats, pardon. Mais je pense, j'ai rejoint l'invité, c'est un problème d'éducation environnementale. Nombreux ne savent pas que l'environnement, lorsqu'il est malsain, la vie n'est pas possible. Et ça doit passer par eux. J'apprécie les combats quand même. Mais je crois deux députés, deux sénateurs en ont parlé. Si Mukis est rallié à Katumbi et Katumbi était élu, si on applique cette politique de la création d'un cadre de concertation et de suivi des accords internationaux, on pourrait faire œuvre utile.
Bien, merci Maître Omar de Kinshasa. On va accueillir Médard Dieya, il est président du parti écologique Soleil. Il intervient depuis Kananga. Médard Dieya, bonjour.
Bonjour.
Bien, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au sujet du jour? Nous parlons de la vision des candidats à la présidentielle sur les questions de l'environnement.
Merci beaucoup pour la parole. Par rapport au candidat, moi j'ai mon candidat qui est le numéro 20, qui est un champion pour la protection de l'environnement. Et moi, comme écologiste, je dois l'appuyer pour que, étant donné que notre pays est un pays solution par rapport à son intervention sur la stabilisation des écosystèmes mondiaux, je pense que il est temps de soutenir le candidat numéro 20 qui reste l'unique champion sur la question environnementale.
Médard, mais on nous a dit tout à l'heure que parmi les candidats, il n'y a que deux qui ont parlé de l'environnement et le vôtre n'a pas fait allusion aux questions de l'environnement, de la protection des forêts et des bassins du Congo, selon Maître Omar. Oui, mais Médard. Allô? Voilà, désolé, il n'est plus là. Martin Milolo, votre réaction par rapport à tout ce que les deux intervenants ont dit?
D'abord, les remercier pour l'intérêt accordé à votre émission et dire que, bon, moi je pense que nous parlons de la même chose, mais dans des termes différents. Moi, lorsque j'ai dit que aucun des candidats n'a parlé de la question environnementale et du climat et la question des forêts, je sais de quoi je parle. C'est pas le fait de prononcer les mots environnement ou les mots forêt ou par exemple d'avoir peut-être une ligne dans votre politique sur comment protéger l'environnement que vous avez là en tout cas prise en charge de la question environnementale. Ici, la question se pose en termes de politique publique, parce que la vision d'un leader, la vision des candidats présents publics, pour moi, se matérialise dans le cadre de leur politique qu'ils proposent pour le développement du pays, et ces politiques sont présentées sous forme de programmes. Et je lance un défi à quiconque de me montrer ou de nous donner le programme de candidats, de tous les candidats, avec la prise en charge de la question environnementale au regard des enjeux et défis du Congo. La question de la République démocratique du Congo sur le plan du climat, de l'environnement et même des forêts, ce n'est pas la question de planter les arbres ou la question de protéger. D'abord, nous avons une forêt de meilleure qualité, je venais de vous le dire. Nous avons une forêt de meilleure qualité. Jusque-là, notre forêt garde sa capacité de séquestration de carbone. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que il n'y a pas une contrepartie. Voilà pourquoi même les communautés qui vivent de ces forêts-là n'ont pas, ne connaissent pas le développement. Aujourd'hui, on parle de, par exemple, de marché de crédit carbone. Quel est le candidat qui a d'abord parlé de marché de crédit carbone? Et même lorsqu'on parle du président public, dont j'apprécie le discours, mais lorsque il était en pleine fonction comme président de la République sur la question de pays solution, encore que il y a encore des choses dont il faut parler, parce que lorsque vous dites que vous êtes pays solution, d'abord vous êtes pays solution pour qui et vous êtes quelle solution? Et donc ça, c'est un autre débat. Mais tout ça est totalement disparu dans les bouches de candidats. Les enjeux d'abord sont sur le plan diplomatique. C'est d'abord ça, la question de l'environnement. Et en Afrique, nous avons l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest qui sont des pôles qui captent plus de financement dans le cadre de l'environnement. Et en Afrique centrale, vous avez les quelques pays là. Et la République démocratique du Congo est le dernier. Elle est le dernier parce que nous n'avons pas, en tout cas, développé cette capacité-là. Voilà pourquoi moi je propose, et je ne voudrais pas que, après cette émission, que les gens peut-être puissent dire, bon, voilà, moi je dis ceci, je dis cela. Non, ça ne se décrète pas, ça ne se bricole pas. Parce que là, ce sont des questions de vie, des questions de l'avenir. D'accord. Il faudrait que, pour ceux qui ne l'ont pas, ou pour ceux qui l'ont bricolé, qu'ils puissent s'entourer des experts. Et des experts pour...
Martin Milolo, est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas encore tard? Les candidats peuvent encore intégrer l'environnement dans leur discours de campagne?
Oui, ce n'est pas tard. Il faut qu'ils puissent consulter. Qu'ils puissent consulter des experts et qu'ils puissent avoir des conseils des experts pour leur donner les conseils par rapport aux enjeux, aux points clés qu'ils doivent intégrer dans leur programme pour qu'une fois élus, qu'ils puissent l'appliquer. Nous avons un combat sur le plan diplomatique pour d'abord recouvrer notre place, pour qu'on puisse nous respecter. Sur le plan environnemental, en Afrique, il n'y a aucun pays qui a nos capacités que nous avons. Même lorsqu'on parle de reforestation et ainsi de suite. Et donc, vous avez la couverture des forêts, en tout cas en République démocratique du Congo, n'est pas n'est pas donc à critiquer, mais on ne refuse pas que voilà les programmes qui peuvent augmenter cette capacité puissent être là. Donc cherchons d'abord à capitaliser ce que nous avons, notre forêt que nous avons. Le premier combat, c'est que accédons au financement dans le cadre du Fonds bleu sur le climat. Il y a un fonds qui vient d'être opérationnalisé et il n'y a pas deux jours à Dubaï, à la COP28. C'est le fonds pertes et dommages qui a été institué à la COP27 et ça a été opérationnalisé. Et il y a même déjà 300 millions de dollars disponibles. Dans ce cadre de ces fonds-là, quelle est la part de la République démocratique du Congo? Parce que nous sommes aussi un pays qui subit aussi la question de dommages sur le plan environnemental avec des inondations, ainsi de suite. Mmh. Et donc, ça, c'est une question. Nous sommes aussi un pays côtier. Vous savez que la question des océans sur le plan climatique, c'est aussi un enjeu parce que regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire et regardez ce qui se passe au Ghana. Il y a des érosions côtières qui sont en train d'avancer. Lorsque ça va nous frapper, nous n'aurons plus Moanda, nous n'aurons plus ainsi de suite. Est-ce que nous avons déjà pensé à tout ça? Mmh. Sur la question de minerais stratégiques, j'ai été écœuré lorsque nous étions au sommet des trois bassins et que les autres, pardon, le sommet africain sur le climat, les autres parlaient de la question des minerais de transition dont nous avons presque la totalité et la République démocratique du Congo est absente. Et donc ça doit changer. On doit prendre la conscience que nos potentiels forestiers aujourd'hui, nos potentiels en termes de minéraux aujourd'hui, c'est le plan de l'environnement, c'est de la richesse. Ça peut nous aider à capter l'argent qui peut être réorienté dans les projets pour régorger la question de l'emploi, ainsi de suite. Chacun parle, des candidats parlent, non, je vais créer autant d'emplois. Mais comment vous allez les créer? Personne ne vous le dit. Et donc, c'est vraiment un déficit. La question environnementale, c'est une source de revenus qui peut nous aider, mais à condition de pouvoir bien la capter, bien la gérer. Par rapport à tout ça, oui. Je n'ai même pas évoqué la question des tourbières. Vous savez que nous avons les tourbières d'une capacité qui dépasse plusieurs personnes. Aujourd'hui, la question des marchés de crédit carbone. Quelle est la politique des candidats par rapport à ça? Parce que c'est aussi un combat. Nous sommes en train de combattre d'abord pour la réglementation de ce marché, mais aussi pour la revalorisation du prix de la tonne de carbone. Et même par rapport à la certification de tous les projets qui doivent être éligibles au marché des crédits carbone. Mais qui en parle parmi les candidats? Voilà pourquoi moi j'ai dit il y a un problème, il y a un déficit, et donc je le confirme.
Oui, Martin, oui. Je reviens à vous dans quelques instants. Le temps d'accueillir Jérémy Mwamba qui nous appelle de Lubumbashi. Jérémy, bonjour.
Monsieur Jordi, bonjour également à l'invité. Je pense que pour être candidat, il faut d'abord assurer ses arrière-gardes. Là, je voudrais dire. Il faut d'abord regarder là où on vient, là où l'on vient et comment les choses s'organisent. Vous savez bien que notre pays s'affiche parmi les pays, d'ailleurs, solution pour tout le monde entier. Et d'ailleurs, quand vous regardez par rapport à ce qui doit revenir à la population, vraiment, c'est inconcevable. Nous sommes un pays solution, mais en même temps, sur le plan économique, sur le plan financier, il n'y a pas retour. Quand il n'y a pas du répondant, ce qui veut dire qu'il y a un manque à gagner pendant que nous sommes la solution. Quand vous regardez du point de vue d'abord massif forestier, ce que représente notre pays sur l'échiquier mondial, nous sommes un pays mis aux côtés, mais cependant nous demeurons toujours pauvres, tout simplement parce qu'il n'y a pas une bonne politique adéquate. Moi je trouve qu'il faut commencer d'abord par se remettre en cause, se poser des questions. Nous sommes un pays solution, mais qu'est-ce qu'est-ce que nous faisons de notre solution? Pourquoi? Qu'est-ce qui doit revenir à notre peuple? Parce que nous sommes un pays qui regorge tout ce que nous avons, qui tire d'ailleurs la convoitise d'autres pays. Par exemple, nous pouvons dire en termes d'abord d'électricité, vous voyez ce que nous représentons sur le plan mondial. En termes environnemental, vous voyez ce que notre forêt, notre massif représente. Il faut nécessairement que nous puissions, et ce sont des autres, lorsqu'ils ont du bois rouge, ils font des armes et en même temps, ça retourne contre la population à l'est, mais nous ne tirons pas profit. Nous devons tous regarder dans la même direction.
Wow, c'est l'arrivée de M. Proved. Vous êtes dans une salle de classe, on dirait, M. Jérémy. Voilà. Sûrement, M. Jérémy est dans une salle de classe, et voilà, le Proved vient d'arriver. Bien, on continue cette émission, on va accueillir Bienvenue des Kikwits. Bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à tout le monde.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la vision des candidats à la présidentielle sur les questions environnementales?
Oui, cher Jérémy, si vous voyez tous les candidats à la présidentielle n'ont aucune vision. Je m'excuse pour autant dire qu'ils n'ont aucune vision, mais la question environnementale ne les intéresse presque pas, parce que vous voyez, aujourd'hui, la province de l'Équateur, elle s'est dit qui m'a une dôme qui regorge des massifs forestiers, sont parmi les provinces les plus pauvres. Et si vous voyez, même les présidents n'en tiennent pas compte pour faire ne serait-ce qu'un petit tour là-bas. Tous, ils sont concentrés beaucoup plus dans les aspects minéraux, autres produits. Comment, aujourd'hui, même si nous disons la RDC est un pays solution, mais la solution en question, ça passe seulement dans les médias. Si les plans réels, on voit absolument rien. On voit absolument rien. Donc, tous les présidents, là, il n'y a aucune exception. Personne, et alors personne ne fait allusion à nos ressources forestières. Ok, c'est un véritable gâchis. À l'heure où nous avançons, la RDC est considérée comme état pays solution, mais vous voyez que même nos autorités, là, ils ne tiennent pas compte. Ils considèrent les crédits carbone qu'on nous donne comme état l'aide au développement, parce qu'elles-mêmes n'ont pas beaucoup trop de connaissances dans cette matière-là. Or, actuellement, nous pouvons nous faire beaucoup d'argent, beaucoup de ressources. Si on a une politique forestière très bien organisée, si on a des acteurs, je crois dernièrement, j'avais dit lorsqu'on faisait les missions avec M. Kanjama, comme si on fait les essais d'entraînement, lorsqu'il y a une COP, on commence à animer des conférences, à faire ceci, mais en réalité, il n'y a pas une bonne politique taillée sur la matière d'environnement qui peut nous apporter de l'argent. On nous qualifie seulement pays solution, mais nous, qui sommes à l'intérieur, on voit aucune solution. Si à notre niveau d'ailleurs, il n'y a pas de solution à toutes les catastrophes que nous traversons, comment on peut trouver des solutions pour ceux qui vivent ailleurs?
Bien, merci, bienvenue des Kikwits. Monsieur Martin Milolo, à vous la parole.
Oui, merci beaucoup. Je remercie encore les deux intervenants et nous saluons le Proved qui vient d'arriver à Lubumbashi. Et donc la question environnementale, c'est vraiment une question très cruciale, mais je voudrais partager avec vous l'exemple que le représentant de l'Union européenne nous a révélé. Bon, en fait, nous a fait constater, parce que nous le savons tous, c'est par rapport aux négociations sur le plan climatique. Par exemple, nous pouvons dire, bon, voilà, il y a des problèmes, ainsi de suite. Mais qui envoyons-nous dans ces négociations? Lorsqu'il y a, par exemple, une délégation, il faut aller à la COP, il faut aller dans telle négociation, on envoie tel, on envoie des cousins, des amis, ainsi de suite, des gens qui n'ont pas de capacité pour parler par rapport à ça. Alors que les autres envoient le meilleur. Le meilleur parmi eux. Et donc, ça me révèle un peu les négociations que nous avons eues pour avoir l'indépendance, où vous aviez du côté des Congolais beaucoup de gens sans expertise, mais de l'autre côté de la Belgique qui avait aligné presque toute sa crème en termes d'expertise. Cela veut dire que nous devons, j'insiste sur le fait que nous devons nous-mêmes prendre conscience et être sérieux. La question de l'environnement nous fait perdre beaucoup de choses. Lorsqu'on se dit pays solution, moi je voudrais qu'on me dise pays solution d'abord pour qui? Moi, je pense que si on est solution et la charité bien ordonnée commençant par soi-même, on devrait être solution d'abord pour nous. Il ne faut pas être pays solution comme on l'a été pendant l'esclavage, on l'a été pendant la colonisation, ou on a été pays solution pour la révolution industrielle avec la fabrication de véhicules, où on venait couper nos ancêtres les mains pour prendre les caoutchoucs et aller se développer, aller développer ailleurs. Et donc, cette solution-là, on n'en veut pas. On ne veut pas d'une solution, d'être un pays solution qui maintient la population congolaise dans la pauvreté. La priorité devrait être d'abord le Congo, les Congolais. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour que nous puissions, en tout cas, nous positionner comme leader en Afrique et même dans le monde sur cette question.
Martin, si la plupart des candidats n'ont pas intégré les questions environnementales dans leur programme ou discours de campagne, cela veut dire que c'est pour eux, ça n'a pas beaucoup d'importance à leurs yeux.
Oui, effectivement, non seulement pour eux, mais pour la plupart des gens, parce que et c'est ça le piège. Et j'encourage, je remercie l'intervenant qui m'a encouragé pour le travail de sensibilisation que nous faisons. Nous avons un travail énorme d'abord en termes de sensibilisation, parce que lorsqu'on parle climat au Congo, notamment en RDC, donc les gens pratiquement pensent directement à planter des arbres et voilà. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça, c'est vraiment une source de revenus, c'est beaucoup d'enjeux. Et dans notre pays, l'environnement, en tout cas, occupe le bas de l'échelle. Beaucoup de gens ne comprennent pas l'importance de cette question. Et parce que les candidats-là, ils viennent de la société, ils viennent de nous. Donc, donc ces candidats-là ont des partis politiques. Ça veut dire que dans leurs partis politiques, il n'y a pas des personnes qui ont la capacité nécessaire pour monter des politiques environnementales, en tout cas adéquates. Et donc, ça pose un problème, c'est que les candidats n'accordent pas assez d'importance à la question de l'environnement, mais aussi c'est un résultat du fait que la société congolaise, beaucoup de Congolais n'accordent pas l'importance à la question environnementale. Et c'est dommage parce que aujourd'hui, regardez, allez au Kenya, regardez ce que le Kenya est en train de devenir avec la question de l'environnement tout simplement. Pas parce qu'il a des potentiels comme nous l'avons, mais parce qu'il a développer des politiques de captage, des politiques attractives de revenir sur la question environnementale. Aller en Afrique de l'Ouest pour voir, par exemple, les pays comme le Ghana, le Togo, comment ils sont en train de pouvoir se développer grâce au marché des crédits carbone, par exemple. Et donc, ça, c'est vraiment un problème de société et nous devons d'abord nous organiser au niveau interne. Savoir que sur les questions techniques qui demandent de l'expertise, par exemple, il ne faut pas envoyer de n'importe qui parce qu'il faut voyager ou comme on le fait. Non, ça nous détruit. Et il faudra que nous puissions changer sur cette question-là. Mmh. Et la question spécifique des forêts du bassin du Congo, la bataille est d'abord qu'on accède au fonds bleu sur le bassin du Congo, qu'on accède à d'autres fonds, notamment les miettes qu'on nous donne, par exemple, au fonds vert, le fonds vert des Nations Unies pour le climat. Comment on les gère, par exemple? Et nous étions avec la directrice de ces fonds, la numéro 1, qui nous a parlé ouvertement et clairement par rapport à la question pour la gestion.
Qu'est-ce qu'elle vous a dit à propos de la gestion de ce fonds?
Non, mais il n'y a pas de suivi. Lorsqu'on envoie l'argent, près de 80% disparaît déjà dans les ministères.
Oui, Martin Milolo, vous êtes là? Bien, on les retrouve dans quelques instants, le temps d'accueillir Justin de Bounia et Gédéon Chiboaboa de Kananga. Justin, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour aussi à notre invité, malheureusement il est parti.
Bon, on va les retrouver dans quelques instants. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, Monsieur Jody, en tout cas, merci une fois de plus de m'avoir reçu dans cette émission. Oui, Monsieur Jody, ouais, moi, je comprends la question de notre invité. Vous voyez, nos candidats qui sont là, Ouais. Personne en tout cas a mis dans son cahier de charges que non, dans son projet quinquennal, et il fera ceci. Le Congo, c'est un pays solution, alors que nous sommes un pays problème, monsieur, aujourd'hui. Pourquoi je l'ai dit?
Nous sommes un pays solution ou un pays problème?
C'est un pays problème, monsieur, aujourd'hui. C'est un pays problème, parce que la tête des Congolais ne fonctionne pas convenablement. Pourquoi je le dis, monsieur, aujourd'hui?
Oh là là.
Parce que...
Nous avons la...
S'il vous plaît, monsieur.
Oui.
S'il vous plaît.
Allez-y.
Vous voyez, nos candidats qui sont là, chacun cherche le pouvoir pour sa propre vie. C'est que moi, je peux dire au Congo, chacun, même le candidat qui sont là-haut, moi, je ferai ces sous, cela. Mais une fois être au pouvoir, et tout perd, rien ne va se réaliser, monsieur Jody. Rien ne va se matérialiser. Monsieur Jody, moi, je pensais que le fait que maman F. Bazaïba est là, pour, en tout cas, notre environnement, nous allons beaucoup changer. Mais nous comprenons que c'était seulement, en tout cas, changer Saint-Pierre ou Saint-Paul, monsieur, aujourd'hui. Parce que si on faisait la vision, en tout cas, par exemple, la Tanzanie, aujourd'hui, la Tanzanie s'est développée. Nous avons des forêts, nous avons les bassins du Congo, la forêt équatoriale, monsieur, aujourd'hui. Pour ne citer que cela, est-ce que si nous, on devrait avoir vraiment des bons dirigeants, des bonnes autorités qui ont l'amour des...
Justin, oui, on a compris. Maintenant, les candidats à la présidentielle, comment les amener à intégrer les questions environnementales dans leur discours de campagne?
Oui, merci, monsieur Jody, en tout cas. Et pour que nos candidats parviennent, oui, à intégrer ce projet environnemental, d'abord, lui-même, il doit être quelqu'un du domaine. Vous voyez que ici au Congo, on ne met pas l'homme qu'il faut à la place du fond. Quelqu'un qui a fait par exemple la vétérinaire et on le met qui devient aussi politique. Quelqu'un qui a fait par exemple l'agronomie et il devient aujourd'hui parlementaire. Et
non, mais est-ce que le candidat président devrait être absolument environnementaliste? Il peut s'entourer des experts et voilà et puis exécuter son programme. Non. Merci d'avoir appelé. On va donner la parole à Gédéon Tshibwabwa de Kananga. Bonjour Gédéon.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'intégration des questions environnementales dans les discours des campagnes des candidats à la présidentielle?
Merci beaucoup. Je salue d'abord la bravoure de tous les co-débatteurs et aussi les invités qui sont à ce temps en train de parler de ce sujet tellement pertinent qui cadre avec l'intégration du programme environnemental dans les programmes de président ou de nos futurs candidats. Alors, nous savons que l'environnement, pendant ce temps, c'est notre cadre de vie de tous les jours. Et personnellement, j'ai toujours eu du mal de voir nos prochains élus intégrer peut-être d'autres questions, mais en même temps, ils intègrent, ils expliquent la problématique de l'environnement. Pourtant, je suis aujourd'hui dans la province du Kasaï central. Je vous dis, l'environnement que nous vivons actuellement est maintenant très pollué. Pourtant, les différents problèmes que nous pouvons d'abord commencer par résoudre dans les différents pays aussi, dans les différentes provinces, commencent d'abord par la protection de l'environnement. Je vous dis aujourd'hui, il n'y a pas une éducation environnementale. La population est en train peut-être de dévaster vraiment l'environnement. Et cela nous amène peut-être dans des problèmes de la pollution de l'environnement. Et il y a même aujourd'hui le réchauffement climatique. Pourquoi? Parce que les élites n'ont pas aussi pensé à intégrer cette question-là. Pourtant, ils devraient aussi, à notre vision, penser d'abord à intégrer ces problèmes. Parce que...
D'accord. Déjà, merci Gédéon, on n'a plus beaucoup de temps. On a compris. Martin Milolo, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il n'est jamais tard pour mieux faire. Nous conseillons à nos candidats présidents de la République de pouvoir s'informer, consulter, s'entourer des experts en matière environnementale et du climat pour les aider à pouvoir compléter leur copie, leur politique. Et pour ça, en tout cas, on est disponible parce que c'est pour l'intérêt du pays
que nous pouvons le faire afin qu'il puisse avoir des programmes complets afin de pouvoir faire face aux enjeux par rapport à l'état actuel du monde. Parce que la question environnementale peut vous conduire au développement, ça peut aussi vous conduire même à la misère, même à la guerre. Parce que lorsque vous avez les potentiels que vous dont vous ne savez pas la valeur, les autres vont venir vous imposer ce qu'ils
veulent,
et ça peut créer des conflits et ça dégénère.
Martin Milolo. Oui. On n'a plus beaucoup de temps, on est arrivé à la fin, c'est déjà la fin de l'émission. Vous êtes coordonnateur de la plateforme des jeunes, vous êtes coordonnateur de la plateforme des jeunes pour la justice climatique. Bonne journée et à la prochaine. Mesdames et messieurs, c'est par ici qu'il s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.